Chapitre 14. Cette escalade de la face nord par la bande jaune pour rejoindre l'arête nord-est fut la plus technique et la plus exigeante que nous ayons effectuée jusqu'ici sur l'Everest. Malgré la plus forte pente, le terrain plus difficile et le risque encore plus terrifiant d'une chute dans un précipice de 2500 mètres, nous ne nous étions toujours pas encordés. Il y avait de nombreuses voies possibles dans ce labyrinthe de surplomb de roches et de masses de neige, dont la plupart consistaient à remonter des goulottes se terminant en cul-de-sac. Le diacre avait choisi celle qui, d'après lui, aurait la meilleure chance de déboucher non loin de ce gros affleurement nommé le premier ressaut. Je suppose que nous ne nous étions pas encordés, à la fois par habitude, après des heures de grimpe en parallèle, et parce que nous étions concentrés sur l'ascension de cette goulotte pentue. Nous enfoncions la pointe de nos crampons, plantions notre piolet devant nous, nous appuyions dessus le temps de reprendre notre souffle, nous n'inhalions de l'oxygène que par intermittence, ce qui ajoutait à notre engourdissement mental, puis montions laborieusement d'un pas ou deux. Tous ces coups de crampons dans la paroi libéraient des morceaux de neige, susceptibles en théorie de provoquer des avalanches, si bien qu'on ne voulait pas grimper les uns derrière les autres. Nous étions dispersés sans que personne soit en tête, sans ordre de passage préétabli, et sans possibilité de se raccrocher à un autre en cas de glissade. Mais chaque fois que je regardais, je vis que le diacre était le plus haut, celui qui faisait la piste. Jean-Claude suivait, puis moi, Passang, et enfin Lady Bromley-Montfort, à environ 4 mètres plus bas que notre ami Sherpa. Reggie chuta quand nous fûmes presque aux 2/3 de la partie la plus raide de la goulotte de neige. Appuyé sur mon piolet, j'étais en train de regarder en bas et je la vis tomber. Sa botte droite se posa sur de la pierre qui aurait dû être la partie émergée d'un solide rocher sous la neige. Nous en avions utilisé beaucoup comme prise de pied dans cette goulotte. Mais ne l'était pas. Le caillou roula sous son pied. Reggie tomba sur le côté avec un « ouf » quand l'air quitta ses poumons et commença aussitôt à glisser. À sa décharge, elle s'était agrippée à son piolet durant la chute, avait roulé sur le ventre et planté la panne de l'outil pour procéder à un arrêt d'urgence, le tout accompli avec la grâce et l'assurance d'une alpiniste accomplie. Mais les fichus crampons 12 pointes, qui nous avaient été tellement utiles pour l'ascension ces derniers jours, s'enfoncèrent dans la neige pendant la glissade. Brusquement, elle se retrouva sur le dos tandis que son piolet volait dans les airs. À présent, elle dévalait la goulotte, la tête la première, vers les précipices et les rochers acérés en bas. Passang fit volte-face et se mit à descendre la pente à grands pas, bien qu'il n'eût aucune chance d'arrêter la chute de notre amie. Elle avait parcouru la moitié de la goulotte et continuait de prendre de la vitesse vers un apic de 30 mètres, se terminant au sommet du vaste bassin de drainage en bas duquel j'avais retrouvé le corps de Mallory. Mieux valait ne pas imaginer ce qui arrivait à un corps au-delà de ce point. C'est alors que Lady Catherine Christina Regina Bromley-Montfort fit une chose extraordinaire. Au lieu de tenter vainement de se raccrocher à la neige avec ses mains gantées, comme la plupart d'entre nous l'auraient fait, elle leva les bras pour attraper les 2 petits piolets marteaux attachés avec des sangles au-dessus des poches latérales de son sac à dos. Juste avant d'être projetée sur la partie la plus verticale de la face nord, Reggie réussit à passer les dragons à ses poignets et à utiliser la tête d'un des marteaux pour se retourner et se retrouver la tête en haut. Puis elle leva les bras pour planter les 2 lames dans la neige. Grâce à 3 frappes en succession rapide, elle parvint à ralentir sa glissade. 2 impacts supplémentaires et la force de tout le haut de son torse pour enfoncer les lames si profond dans la neige qu'on ne voyait plus ses moufles. Et elle s'arrêta à quelques mètres de la pique. Le diacre et Passang continuèrent de descendre la goulotte en bond périlleux, perdant en quelques minutes les innombrables mètres que nous avions mis 1 heure pénible à gravir. Ils arrivèrent auprès de Reggie, toujours à plat ventre, bras et jambes écartés dans la neige, crampons levés, presque en même temps. JC et moi nous tournâmes dans l'intention de les rejoindre, mais le diacre nous cria de rester où nous étions. 1 minute plus tard, Reggie était assise, la botte à crampons de Passang lui servant de repose-pied pour éviter de glisser, et buvait du thé dans le gobelet de la thermos que le diacre venait de sortir. En l'absence de vent, JC et moi entendîmes parfaitement la voix de Reggie 30 mètres plus bas.
« Idiote, idiote, quel idiote !»
ne cessait-elle de marmonner. Passang l'examinait, glissant les mains sous les couches de vêtements pour ausculter ses bras, ses jambes et sa poitrine, d'une manière qui me fit regretter de ne pas être médecin. Et il nous cria qu'en dehors de quelques bleus et contusions, Lady Brebley-Montfort semblait aller bien. « Et les chevilles ?» demanda le diacre d'un ton inquiet. À cause des crampons, ce genre de chute en glissade causait souvent des entorses ou des fractures, comme nous l'avions clairement vu sur le cadavre de George Mallory. Et il ne portait même pas de crampons. Sa fracture ouverte du tibia avait été causée par ses lourdes bottes. Aidé des deux hommes, Reggie se releva et chancela un peu, avant que la main puissante de Passang ne la stabilise.
« Elles sont endolories, » dit-elle, « mais pas foulées. Rien de cassé. »
Passang s'agenouilla alors devant elle, et l'espace d'un instant, je crus qu'il priait. Puis je m'aperçus qu'il lui rattachait ses crampons.
« Tenez, votre piolet, »
dit le diacre en le lui tendant. Reggie le prit et le regarda.
« Ce n'est pas le mien ?»«
Je l'ai pourtant trouvé là où il a rebondi, à environ 6 mètres du bas de cette goulotte, là, sur votre droite. » Reggie pointa le doigt.
« Mon vieux piolet est là-bas, à moitié enseveli au milieu de la pente. Je me sens idiote de l'avoir lâché. Ça, c'est un schenk tout neuf. »«
Vous ne l'avez pas lâché, » dit le docteur Passang. « Il vous a été arraché des mains. » Et si vous aviez enfilé la dragonne, le moment de torsion vous aurait très certainement cassé le poignet.
« Oui, »
dit Reggie d'une voix distraite.
« Mais à qui est ce piolet ? Il a l'air neuf. Le bois du manche est plus foncé que le mien, et il a 3 encoches aux 2/3. »«
3 encoches ?»
répéta le diacre d'une voix étrange. Il lui prit le piolet des mains et l'examina attentivement. Puis il sortit les jumelles de son sac et se mit à scruter la goulotte plus étroite à droite de celle où JC et moi nous tenions toujours. À chaque minute d'immobilité, je ressentais plus intensément le froid, surtout dans les pieds.
« Il y a quelque chose là-haut, » dit Passang tendant le doigt.
« Oui, » acquiesça le diacre.
« Un homme. Ou un corps. »
Les deux hommes aidant Reggie à faire ses 10 premiers pas, tous 3 commencèrent à grimper résolument, non pas vers la goulotte que nous avions presque fini d'escalader et où JC et moi nous tenions toujours, mais vers l'autre, plus étroite et plus raide, à droite. Quelque chose ou quelqu'un nous y attendait.